Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Parfois, le tournage d'un film se transforme en une véritable expédition digne des plus grands aventuriers. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on décide d'aller planter sa caméra sur le sol gelé de l'Antarctique pour filmer par moins 30 degrés des acteurs qui n'ont pas franchement pris le temps de jeter un œil au scénario. Et pour cause, ce sont des manchots. Résultat, un an de tournage dans des conditions extrêmes, 120 heures d'images et à l'arrivée, un film, La Marche de l'Empereur, montrant une colonie de manchots comme aucun ne l'avait fait. Un succès, un Oscar, et ça repart après les glaces du pôle sud, la moiteur des forêts tropicales. Nouvelle opération commando, de nouveau s'adapter aux conditions extrêmes de tournage et de nouveau composer avec des acteurs bien singuliers, les arbres cette fois. Comment mettre en scène ces êtres qui poussent de quelques centimètres par an quand on tourne avec une caméra qui filme à 24 images par seconde. Pari risqué, mais pari remporté, avec à nouveau à l'arrivée un très beau film, Il était une forêt. Au programme de notre bivouac aujourd'hui, récit de tournage épique dans les zones les plus inhospitalières de la planète, avec le réalisateur de La Marche de l'Empereur et de Il était une forêt.
Mes amis, je ne sais où nous allons.
Sur France Inter.
Parfait, alors, ça vous dit de faire un tour, allez-y.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour, Luc Jacquet.
Bonjour.
Très heureux d'être avec vous. Votre film, Il était une forêt, est sorti en salle en novembre dernier. Il est maintenant disponible en DVD ou en VOD pour ceux qui l'auraient loupé. Nous parlerons dans la deuxième partie de cette émission de ces véritables expéditions que vous avez menées dans les forêts tropicales du Pérou et du Gabon pour tourner ce film. Vous étiez accompagné du botaniste Francis Allais, personnage central du film. Vous nous raconterez comment il vous a ouvert les yeux sur le monde absolument fascinant des forêts primaires. Cette émission est réalisée par Marie-Hélène Fauquet. Elle a été préparée par Hugo Struna avec l'aide de Josépha Devaux-Thibault. Et à la technique, c'est Clément Vuillet.
Il était une fois un jardin, une terre fertile et généreuse où la vie allait de soi. C'était il y a bien longtemps, avant que l'hiver ne vienne.
Mais un jour, le blanc a tout effacé. Les plantes, les créatures. Ceux qui pouvaient fuir ont fui. Mais nos ancêtres ont décidé de rester, coûte que coûte, et de tenir tête au gel qui prenait tout.
Depuis, les temps ont passé. La terre a changé son poids de visage. Nous, nous sommes toujours là, debout comme des sentinelles. Voici notre histoire.
La voix de Romane Boringer et de Charles Berling. C'est ainsi que commence La Marche de l'Empereur. Le tournage de ce film date de 2003, Luc Jacquet. Mais votre histoire avec l'Antarctique est plus ancienne que cela. Hein. Quand est-ce que vous êtes allé pour la première fois en Antarctique, vous ?
Je débarque en décembre 91.
À quelle occasion ?
Je me prépare à passer un hiver complet là-bas, 14 mois comme scientifique. C'est mon premier grand voyage, premier choc. Je me souviens arriver sur la banquise, comme ça, au pied de l'île des Pétrels, sur laquelle est la base du Mont d'Urville. Et je vois les phoques, comme ça, qui sont sur la banquise. Je vois les manchots de partout, comme ça. Ça fait partie de ces images qui restent, comme ça, marquées à vie, parce que c'est une découverte incroyable. Moi, ça a été, c'est un tournant dans une existence.
Qu'est-ce qui vous a attiré là ? C'était un hasard ? C'est un concours de circonstances ? Comment vous avez atterri en Terre Adélie, comme ça ?
Oui, c'est un hasard complet. Je suis à la faculté, je suis en train d'étudier l'écologie, la biologie. Et je vois sur un panneau comme ça qu'on recherchait des biologistes pour partir 14 mois. Alors, moi, j'avais envie, jurassien, j'adorais le ski de fond, les conditions extrêmes. J'aimais bien me raconter des histoires aussi. Et pour moi, aller me raconter des histoires en Antarctique, c'était un truc. Pourquoi pas ? Et qu'est-ce que j'ai bien fait, quoi.
Ouais. Tout de suite, le coup de foudre, vous vous êtes dit, cet endroit, il y a quelque chose qui m'attire, je suis fait pour cet endroit ?
Ben oui, parce que c'est un drôle de mélange d'extrême, de dépassement de soi, d'humanité et de solidarité. Et puis c'est aussi un territoire de liberté, c'est-à-dire que à 23 ans, on vous donne les clés d'un continent entier. Vous avez une seule contrainte, c'est de ne pas mourir et ramener des données scientifiques. Et on a vécu des choses extraordinaires. C'était des moments, je me revois avec mon bateau au milieu des baleines tout seul. Je me dis, mais on était un peu fous quand même, mais on avait 23 ans tout simplement. Quoi.
Mais à quel moment on glisse du scientifique au cinématographique ? Vous y êtes allé la première fois, c'était en tant qu'étudiant scientifique. Hein ?
Oui, mais coup de peau là encore. Là encore un souvenir, un coup de téléphone chez mes parents, un type qui m'appelle. J'ai appris que vous partiez en Antarctique pour 14 mois. Est-ce que vous avez envie de faire des images pour mon prochain film ? Pourquoi pas ? Là encore, une porte ouverte sur quelque chose de nouveau qui m'intéresse. Donc le réalisateur me forme. Hein. Il m'apprend à tourner en 35 mm. En quelques jours, les premiers manchots que je rencontre sont les manchots du zoo de Zurich à l'époque. Je filme des manchots royaux. Je filme des manchots en carton sur le glacier de la Jungfraujoch. J'apprends à faire un cadre, etc., etc. Ce truc me plaît vachement. Vraiment, me balader tout seul sur la banquise pendant un an avec la caméra est un truc qui me... Voilà, je sens qu'il y a quelque chose sans être vraiment capable de le formuler. Et quand je rentre, Ulrich Schlumpf, donc le réalisateur pour lequel j'avais travaillé, me dit « Écoute, t'as un œil, tu devrais... » Bon, ok, ça veut dire quoi avoir un œil? Mais j'avais surtout, moi, une immense envie de retourner en Antarctique. Ça fait... Tous les gens qui sont partis là-bas vous le diront. On est pris par le virus. Et je me suis dit « Mais... » Envie de retourner en Antarctique, faire des images, c'est un truc qui peut être cohérent. J'ai bâclé mon DEA, si je puis dire, en France, et j'avais qu'une idée en tête, c'est repartir. Et j'ai eu de la chance à ce moment-là, encore une fois, puisque la télévision produisait énormément de documentaires animaliers à l'époque, hein, c'était les années 95. Et moi, je savais faire un truc, je savais partir en Antarctique demain matin. Quoi. Et je me suis mis à faire plein de films comme ça, et du coup, j'ai fait, je sais plus, je ne les compte plus, une quinzaine d'expéditions comme ça en Antarctique, avec des films très différents, voilà.
Et lors de ces expéditions, il y a quand même une sorte de fixation. Votre intérêt se porte tout particulièrement sur le manchot empereur. Pourquoi celui-là et pas les autres?
C'est le plus beau, c'est le plus anthropomorphe. C'est le seul qui est capable de résister à l'hiver antarctique. Pour moi, être manchot empereur, c'est peut-être la quintessence de l'art d'être vivant. Parce qu'après l'empereur, il n'y a plus rien. C'est le désert absolu, il n'y a plus de vie à part quelques pauvres bactéries qui vivent dans la glace, quoi. Et je trouvais que cette histoire, dans son dépouillement absolu, avait quelque chose de totalement universel. J'imaginais pas que ça serait le film que c'est devenu. Mais j'avais aussi envie de raconter les animaux et la science avec de l'émotion, pas seulement des chiffres. Mais j'avais envie de m'octroyer le droit de dire c'est beau, c'est triste, c'est émouvant.
Mmh. Alors l'idée, vous l'avez eue dans les années 2000, hein, et au départ c'était censé être un téléfilm, puis le projet a pris de plus en plus d'ampleur, hein, je crois, un an de tournage, on va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission. Vous vous souvenez de la bande originale, bien sûr, du film, une chanteuse y a participé, laquelle?
Émilie Simon.
Normalement c'est de la pointe de la piste du Lion, le petit massif rocheux qu'on voit là-bas au fond. C'est de cette pointe que vont sortir les manchots empereurs. C'est de là qu'on essaye de les filmer. Alors du début de la sortie de ce goulet, ils risquent de passer juste devant nous là, et puis regagner la colonie. Donc le but, c'est de les avoir depuis leur sortie du goulet, de les filmer ici qui nous passe devant, avec la caméra sur pied ou avec la grue. On va essayer de faire plusieurs séquences. Et puis si ça fonctionne, après on essaiera de prendre un peu de hauteur du sommet du Mont Rose.
C'était Jérôme Maison, l'un des deux chefs opérateurs, caméramans, hein, qui ont tourné La Marche de l'Empereur sous votre direction, Luc Jacquet. Le deuxième s'appelait Laurent Chalet. Alors ils attendent des heures la colonie de manchots. Dans le froid, on entend le vent souffler. Vous leur aviez confié une mission difficile, pour ne pas dire quasiment impossible. Une année en Antarctique à regarder passer les manchots.
Ouais, c'était une mission un peu folle. C'est sûr que moi, un des critères de recrutement, c'était que le mec dise oui tout de suite. Et Jérôme, je le connaissais bien, puisqu'on travaillait ensemble depuis quelques années. Je trouve ça extrêmement émouvant de l'entendre là, parce que je le revois. C'est une aventure un peu dingue. Et c'est sûr qu'il y a un petit coup de poker quand on attend les manchots empereurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils peuvent arriver en très très grande colonne, mais on sait aussi qu'ils peuvent arriver en ordre dispersé, si je puis dire. Et là, cette année-là, Jérôme et Laurent ont eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de barrière, comme ça, de mer libre qui s'est formée. Tous les manchots se sont regroupés au large, et la mer a gelé, ils sont arrivés tous ensemble. Et ça a donné des images extrêmement spectaculaires, ouais, de cette colonne de manchots qui marche en file indienne, comme ça, et qui rejoignent la colonie.
Et quand vous dites tous ensemble, c'est par milliers, hein. C'est-à-dire que là, je crois que sur ce plan précis, ils sont plus de 1000 à défiler en file indienne sur la banquise avec cette terre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je trouve que chez le manchot, il y a à la fois du majestueux et du grotesque. Ça oscille toujours un peu entre les deux, parce que des fois, il tombe, alors c'est un petit peu pataud. Et puis, il y a des fois, par contre, il y a certaines postures qui sont très émouvante et très majestueuse.
Ouais, mais c'est un bon résumé, c'est-à-dire qu'il y a tout ça en lui. Moi, j'ai tendance à voir le côté majestueux parce que c'est un animal qui, moi, me touche beaucoup, mais c'est vrai que c'est un animal qui peut passer des heures à essayer de franchir un petit obstacle. Et il faut l'imaginer dans l'eau où là, il prend, je dirais, toute la dimension de sa puissance de nageur, de plongeur qui est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il a des gestes qui sont d'une pureté, d'une beauté incroyable. tout ça mélangé dans une tête d'oiseau, effectivement.
Ouais. Et alors, pourquoi marche-t-il autant, ce drôle d'oiseau ?
Eh bien, ça fait partie de cette étrange destinée que cette espèce a choisie, dans le sens où c'est un oiseau qui est très gros, il fait une quarantaine de kilos, donc il a besoin de beaucoup de temps pour élever son poussin. Et à la différence de tous les autres animaux antarctiques qui vont faire une espèce de sprint pendant les 2 ou 3 mois de l'été austral, le manchot empereur a choisi de prendre son temps durant la pire période de l'année. Et du coup, l'empereur se reproduit là où la glace est la plus stable, c'est-à-dire contre le continent antarctique, pour bénéficier, si je puis dire, d'un plancher durant toute la saison, sans risque de brisure par la tempête. En revanche, il est obligé d'aller pêcher, puisque c'est un animal qui est piscivore, hein. Il est obligé d'aller pêcher et donc retrouver la mer libre. Mmh. Et parfois, aller pêcher, ça veut dire faire 100, 120, 150, 200 km à pied avec ses pauvres pattes, si je puis dire, pour aller chercher la nourriture. Et toute la partie spectaculaire du cycle de cet animal tient là-dedans.
Ouais. Vous parlez de peuple maudit, il y a un peu de ça, parce qu'on a ces manchots, vous l'avez dit, qui sont reculés à l'intérieur du continent, qui attendent à tour de rôle, qui vont chercher la nourriture à la mer et qui font ces allers-retours, à tour de rôle, le mâle, la femelle, pour d'abord couver l'œuf et puis ensuite pour nourrir le petit. C'est vrai que c'est un chemin de croix, ce que vivent ces manchots.
Oui, en tout cas, le seul moyen pour que ça fonctionne passe par une dimension de solidarité absolument incroyable. Solidarité entre les animaux eux-mêmes et dans la relation que peut avoir le mâle et la femelle, c'est-à-dire qu'ils se partagent le travail, littéralement, hein, puisque la femelle qui va dépenser beaucoup d'énergie pour fabriquer l'œuf, hein, pour pondre l'œuf et l'embryon, va immédiatement confier l'œuf au mâle qui va se charger de la pire partie de la couvaison, pendant que la femelle repart en mer, va aller se nourrir et va ramener la nourriture. Et le mâle, pendant ce temps-là, ne sait évidemment pas ce qui se passe. Il va passer plusieurs semaines à jeûner dans les pires conditions du monde. Et je crois que le côté le plus impressionnant, c'est que la plupart du temps, les femelles n'arrivent pas juste à temps quand le poussin est clos. Et le mâle, malgré ses 40 jours de jeûne, va être capable de régurgiter un petit peu de nourriture pour faire le joint entre le moment où le poussin éclos et la mère revient.
Ouais, c'est vrai que c'est un animal vraiment fascinant, hein, et il doit faire face parfois à de terribles tempêtes.
Depuis quelques jours, le ciel a l'œil mauvais. Du soleil en montagne, on change de décor. On entend l'hiver qui s'apprête à frapper. Avec notre œuf sur les pattes, nous sommes comme des funambules. Nous nous serrons les uns contre les autres. Nous ne sommes plus qu'un seul corps qui s'enroule sur lui-même, comme un tourbillon de tempête. Nous tiendrons.
La grosse difficulté, c'est le vent. Mais quand c'est vraiment la tempête et qu'il y a de la neige en suspension, finalement, le fait que la caméra bouge un petit peu à cause du vent n'est pas un problème. Pour parcourir le petit kilomètre qui nous séparait de la colonie, parfois ça devenait très très compliqué. Autant on pouvait le faire en 20 minutes par beau temps, autant il y a des jours on a mis 2 heures pour parcourir ça.
Puis quand on filmait, on oubliait notre froid, notre propre condition, parce qu'on regardait les manchots et les voir résister tranquillement au froid, ça nous calmait. C'est vrai que là, le moindre déplacement était difficile. Alors on avait les raquettes pour se déplacer dans la neige, et après quand il fallait grimper sur les rochers, avec le vent, avec la neige qui glissait et le poids du matériel, c'était vraiment une petite épopée à chaque fois. Mais en fin de journée, c'était vraiment le régal, on était heureux.
Jérôme Maison et Laurent Chalet, donc les deux chefs opérateurs, les caméramans qui ont filmé ce long métrage, ce documentaire, La Marche de l'Empereur. C'est amusant de voir qu'effectivement c'est dur pour les manchots, mais ça devait être encore plus dur pour les caméramans qui ne sont pas équipés pour faire face à un tel froid. On a des températures de moins 30 degrés avec, quand le vent souffle, des ressentis encore plus impressionnants, hein, Luc. Évidemment, vous les avez accompagnés, Luc Jacquet. Vous n'étiez pas en permanence, vous avez passé 5 mois avec eux. Vous leur aviez fait une liste d'images à prendre.
Oui, bah moi j'avais eu la chance de vivre ça quand j'avais 23 ans. C'est vrai que partir 14 mois comme ça, c'est quelque chose de compliqué. Une des choses très facilitantes, si je puis dire, c'est que les manchots empereurs se reproduisent toujours au même endroit et font pratiquement les mêmes gestes sur un calendrier qui est extrêmement précis. Pourquoi il est précis ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut absolument que les choses tombent au bon moment et le cycle doit s'enchaîner de manière presque métronomique. Et du coup, c'est assez simple de faire un brief. C'est peut-être l'animal le plus simple du monde à filmer.
Quand vous dites
aux conditions près, puisqu'effectivement, on se sent très, très, très faible quand on est être humain avec des couches de vêtements et à se geler littéralement en quelques j'ose même pas dire en quelques heures quoi. Mm-hmm. Alors et que tienne.
Il y avait un vrai risque, ils auraient pu voilà y passer.
Clairement. Enfin, Jérôme et Laurent ont été pris dans une tempête extrêmement violente. Et ils ont été effectivement pas loin d'être perdus hein, et d'avoir de très gros problèmes. Ils ont eu de graves gelures. Par bonheur, ils ont pu rentrer. Par bonheur, ils avaient suffisamment d'expérience au moment où ça s'est passé pour faire les bons gestes. Parce que quand on est dans des conditions de survie comme ça, chaque décision devient extrêmement importante et peut-être fatale. C'est vrai qu'en Antarctique, les choses peuvent aller très très vite. C'est un endroit qui ne pardonne pas. C'est évidemment un climat extrême, et vous avez le vent qui peut se lever de rien à 100 km/h, 150 km/h en un quart d'heure. Toute la neige qui est au sol part en suspension et vous ne savez plus où vous êtes. Ça s'appelle le whiteout en Antarctique. Vous êtes dans une espèce de purée, vous ne savez plus où est le haut, le bas. Moi, je me souviens en hivernage m'être perdu entre deux caravanes qui étaient espacées de 4 mètres. Et je ne savais plus où j'étais. Et par bonheur, j'ai fait le bon choix. Je suis parti à droite plutôt qu'à gauche. Mais j'aurais pu partir sur le continent Antarctique et me perdre comme ça à jamais.
On peut voilà, imperceptiblement dévier de sa trajectoire et ne plus jamais...
On n'a plus de repères du tout. Et alors, le vent qui vous agresse est évidemment pas pour vous rendre lucide.
Alors vous disiez, c'était relativement facile de leur faire un brief puisque cet animal, finalement, est assez prévisible. On sait par quel endroit il passe et on connaît les étapes du cycle de sa vie. Donc vous aviez vraiment scénarisé l'histoire avant même de vous rendre en Antarctique pour filmer ce film.
Ben c'est sûr que c'est la chance que j'ai eue sur ce film, c'est que, ayant vécu 14 mois en Antarctique, je savais exactement ce qui allait se passer, j'avais les images en tête. Et jamais on repère un film en temps réel comme ça, jamais on a l'opportunité, tout simplement pour des questions économiques la plupart du temps. Hein. Donc ça m'a permis d'être effectivement extrêmement précis et d'être pointilleux par rapport aux images qui, moi, m'avaient marqué et que j'avais envie de partager.
Mais alors, on imagine la difficulté, c'est-à-dire que vos deux chefs opérateurs avaient comme on appelle ça un storyboard, une sorte de bande dessinée du film. Et puis après, il fallait trouver les images dont vous rêviez.
Certes, mais les décors sont invariables, c'est-à-dire que la dimension de mise en scène est assez limitée. Après, c'est vrai que la relation que je voulais, moi, c'était qu'on sente l'histoire, qu'on arrive à donner l'émotion. Et c'est aussi tout le travail qui a pu être fait a posteriori avec le montage, avec la musique. Émile Simon a évidemment contribué grandement à faire que ce film soit ce qu'il est devenu. Une autre chance, c'est que ces animaux font tous les mêmes gestes. Donc potentiellement, vous avez le même acteur, cloné 3 ou 4 000 fois, qui fait le même geste au même moment. Donc si vous ratez une passation d'œuf, par exemple, vous avez l'opportunité, 5 minutes après, d'en voir une autre à côté de vous.
Mais alors justement, ça veut dire que le passage de l'œuf, parce qu'effectivement, comme le mâle et la femelle doivent se relayer et ils doivent se passer l'œuf, c'est un moment délicat. Certains, les trop jeunes, cassent l'œuf au moment où ils se le passent. Et vous avez les deux scènes dans votre film, ceux qui y arrivent et ceux qui malheureusement cassent leur œuf et se pousse un peu un cri de détresse, hein, c'est assez émouvant. Alors on a l'œuf qui se brise, on a aussi à un moment, une fois que les poussins sont nés, des oiseaux qui attaquent les poussins et un poussin qui y reste. On va voir une mère qui essaye de voler à un moment le poussin d'une autre. Enfin, il y a plein de petites histoires dans cette grande histoire du peuple qui marche, ce peuple de manchots empereurs. Toutes ces séquences avaient été pensées en amont.
Oui, parce que c'est des constantes dans l'existence de cet animal. C'est des choses qui sont bien écrites, hein, puisqu'on connaît les manchots empereurs depuis... en tout cas, Dumont-d'Urville, depuis 1957, c'est la base scientifique qui a été installée en particulier parce qu'elle était proche de cette colonie de manchots. Donc ça, c'est des choses qui, effectivement, on connaît bien, et c'est toute la crudité de l'existence qui se manifeste. La chance qu'on a, c'est que les manchots n'ont pas peur de l'homme. Et ça, c'est quelque chose de décisif, parce que quand vous allez filmer ne serait-ce que des éléphants, enfin ce que vous voulez, prenez n'importe quelle espèce animale, vous êtes toujours un voyeur frustré qui n'a pas le temps de voir les choses puisque vous allez voler ponctuellement des petits instants d'existence, alors que là on cohabite avec les manchots empereurs. Et n'ayant jamais été chassés, ils n'ont jamais appris à avoir peur de l'homme, puisque l'homme ne vit en Antarctique depuis qu'un siècle finalement. Et du coup, on a accès à tous leurs comportements.
Et il n'y a aucune image qui vous ont été rapportée, qui vous ont surprise? Vous n'avez pas été étonné en dérochant comme on dit, en regardant toutes les images qui ont été
prises. Si, la surprise, c'est la taille de cette colonne incroyable qui arrive à la colonie. La surprise, après, elle tient de l'image, elle tient de l'instant, elle tient du moment. Pourquoi il y a un moment de grâce ? Là, on rentre dans la logique du cinéma, quelque part.
Alors, quand même, parfois difficile d'obtenir ce que l'on veut, car les manchots, ce ne sont quand même pas des acteurs très disciplinés. Et les deux chefs opérateurs ont parfois eu un petit peu de mal à obtenir ce qu'ils voulaient, notamment pour réussir à filmer le moment où les manchots se jettent à l'eau.
On se dit que ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu l'eau, qu'ils sont pressés d'aller dans l'eau. Mais non, et ils se mettent juste à côté du point d'eau. Ils sont contents, ils ont trouvé le point d'eau. Et ils attendent. Et puis d'un seul coup, dans un coin, on entend un flop et c'est un manchot qui est en train de nager. On essaye de le retrouver, il disparaît sous la banquise. Voilà, on a une toute petite fenêtre d'eau libre sur la banquise et on est obligé de surprendre tout ce qui peut arriver dedans. Mais comme on n'a pas d'œil pour voir ce qui arrive en dessous, à chaque fois on est surpris. Donc voilà, alors là on en a gaspillé des kilomètres de bobines pour essayer d'avoir le premier manchot qui allait se mettre à l'eau. On voulait surtout pas rater l'événement, donc on changeait tout à l'arrache. Mais c'était... Voilà, ils nous ont bien rendu fous, là, ce jour-là. C'était assez rigolo. Et puis, d'un seul coup, ça y est, il y en a un qui se décide. Donc, on le filme. On se dit, tiens, les autres vont suivre. Il va donner le... Et pas du tout. Les autres restent collés derrière. Encore une fois, ils vont attendre une heure, deux heures avant d'aller dans l'eau. Donc, nous, on a largement le temps d'avoir froid. Et puis, au bout d'un moment, finalement, on a... Comme on reste avec eux, comme on est quand même bien à attendre, eh ben, on a l'image de la mise à l'eau, mais il faut surtout pas être pressé.
Ah bah tiens, oh là ouais. On voit deux, on voit trois. Il doit pas y en avoir beaucoup en dessous.
Il en faut de la patience, Luc Jacquet, pour filmer les animaux quand même.
C'est amusant d'écouter Jérôme qui raconte ça a posteriori. C'est vrai qu'à l'époque, on filmait en film. Je dis ça comme si c'était il y a des siècles. Ouais.
2003,
oui, c'était une époque où on filmait encore avec de la pellicule. Et quand vous déclenchez à 120 images secondes et que vous avez la sensation du magasin qui est en train de se vider, ça peut être très très frustrant quand l'animal ne démarre pas. Mais ça fait partie du quotidien de tout bon cinéaste animalier.
Difficulté supplémentaire pendant le tournage, vous ne pouviez pas, je crois, voir les rushs au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il fallait se souvenir, et j'imagine noter, tout ce qui avait été filmé pour savoir si vous aviez les bons plans, dans le bon ordre, avec les bonnes entrées dans le champ, les bonnes sorties.
C'est vrai que c'était il y a 12 ans, à cette époque archaïque, où on n'avait encore aucun moyen d'enregistrer ces images. C'est assez fou d'y penser d'ailleurs. Et oui, c'était compliqué pour les opérateurs sur place, c'était compliqué pour les producteurs. Pour qui c'était un tournage complètement en aveugle. Il pouvait se passer n'importe quoi, y compris le pire. On n'était pas au courant, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des rayures sur la pellicule, etc. Donc c'était un tournage risqué à tous les niveaux. Vraiment, il y avait un risque de production qui était considérable. Mmh.
Du coup, c'est un souvenir stressant ou c'est un bon souvenir quand vous vous replongez dans cette aventure ?
C'est un drôle de souvenir parce que c'est quelque chose qui était tellement inattendu. Ça a été un combat aussi, ça a été un combat pour trouver un producteur, ça a été un combat pour faire ce film, ça a été un combat pour le monter. J'ai laissé une énergie là-dedans absolument considérable, mais comme tous les gens qui ont travaillé sur ce film, parce que c'était un film de débutant aussi. Moi, je n'avais jamais fait de film pour le cinéma. J'avais une espèce de candeur quand je vois les choses a posteriori qui est incroyable.
Coup de maître pour un film de débutant, Oscar.
Mais,
Oscar du meilleur film documentaire.
Quand on revit après des choses un peu plus normales au cinéma, on se dit, mais c'est vrai qu'il y a un moment, toutes les étoiles étaient alignées et tout souriait pour nous, finalement.
Alors, à la fin de la marche de l'Empereur, on apprend que les petits, une fois qu'ils regagnent l'océan pour la première fois, ils y restent pendant 4 ans. On ne sait pas où ils vont. On sait seulement que, devenus adultes, ils réapparaissent un beau jour, un peu comme par magie, au même endroit. Il y a un deuxième film à faire, non ? Pour savoir ce que deviennent ces marcheurs pendant 4 ans, quand ils deviennent nageurs.
Depuis, la technologie a évidemment beaucoup évolué. Je pense qu'il y a des chercheurs qui seraient à même de nous donner des choses plus précises sur ce point. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension même mystérieuse. Que deviennent les oiseaux l'hiver ? On sait qu'ils sont en mer, mais on ne sait encore pas bien où. Et c'est des mers qui sont tellement inhospitalières, des océans où on ne va pas, hein, parce que personne n'ose se risquer dans ces endroits-là pendant l'hiver. Et ça fait partie de ces délicieux mystères qui persistent encore dans la nature, et j'aime beaucoup ça, finalement.
En tout cas, après les mystères des manchots, vous avez eu envie de nous raconter la vie de la forêt, le temps d'un bivouac change de décor. Dans un instant, on part pour les forêts tropicales.
Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. parce que je ne les voyais pas pousser, j'avais l'illusion qu'ils étaient immobiles. Parce que je ne les entendais pas, j'avais l'impression qu'ils étaient silencieux. Je n'imaginais pas, quand j'ai commencé ma carrière de botaniste, que les grandes forêts tropicales disparaîtraient sous mes yeux en à peine 50 ans. Elles étaient si vastes. Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie. Vous raconter mon immense passion, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques.
Ainsi commence votre film « Il était une forêt », Luc Jacquet. Ce film est né de votre rencontre avec un botaniste passionné par les arbres, les forêts, Francis Allais. Qui est-il et comment s'est faite la rencontre avec lui ?
C'est la conséquence directe de la marche de l'empereur, je dirais. Ah,
curieusement.
Non, parce que c'est vrai qu'après la marche, après l'Oscar, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé là ? Comment ça se fait que j'ai vécu tout ça, le succès, ce tour du monde avec le film, etc. Et derrière ça, il y a plein de scientifiques qui sont venus me voir en disant, j'aimerais bien que tu me fasses un film comme la marche de l'empereur sur ce sur quoi je suis en train de travailler. Et il y avait des gens absolument passionnant, mais qui avait des sujets compliqués. Et c'est dans cette logique-là que j'ai monté une fondation qui s'appelle White Touch, pour justement faire émerger ces grands films qui parlent de choses graves, importantes, mais essentielles. Et je voulais justement arrêter d'être dans une logique mortifère, de parler de l'écologie de manière un peu désespérée, pour essayer de rallumer la flamme, pour essayer de, par l'émotion, par la connaissance, de dire il y a moyen de faire quelque chose en allant chercher les gens par le cœur. Mmh. Et c'est comme ça, dans ces circonstances-là, que je rencontre Francis Allais, qui me tient à peu près ce discours, qui me dit effectivement, ça fait 50 ans que je travaille sur les forêts primaires, je les vois disparaître, j'ai pas pu enrayer le phénomène, mais peut-être que si on fait un film patrimonial qui raconte la vie des arbres, on va peut-être inverser le processus. Et je me dis, mais faire un film sur les arbres, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, le cinéma, c'est l'art du mobile. L'arbre, c'est l'immobile par excellence. Comment je vais faire ? Et le personnage m'intéressait parce qu'il avait une façon de me parler des plantes qui était vraiment singulière. Et on part, je dis, écoute, allons voir. Et on part 10 jours en Guyane, comme ça. Et je suis époustouflé. Parce que d'abord, la forêt qui me faisait peur, un peu comme tout le monde, est un lieu de bien-être, de richesse, de foisonnement incroyable. Et je suis là avec un ambassadeur qui me décrypte la vie des plantes, les plantes comme jamais j'ai entendu. Et je me dis effectivement, le film, il est là, c'est faire partager ce que moi, là, je viens de vivre. Et je crois que je vais pousser les portes d'un univers que personne ne soupçonne.
C'est vrai que ce botaniste Francis Allais parle des plantes comme personne. Je vous propose de l'écouter. Il est convaincu que l'on sous-estime le rôle majeur que jouent donc les plantes en général et les forêts en particulier. Et c'est ce qu'il expliquait au micro de Ruth Stegazy en 1999 sur France Culture.
Mais en réalité, elles ont une place d'une très grande importance. Un exemple, vous supprimez les animaux d'une forêt tropicale, dans les exemples que je connais le mieux, il ne se passera rien. Rien dans l'immédiat, en tout cas. Et la forêt va subsister. Revenez un siècle après, je ne pense pas que vous verrez de différence. Réellement. Maintenant, faites l'inverse. Prenez cette même forêt, retirez les plantes, gardez uniquement les animaux. Ça va durer combien de temps ? 36 heures. Qu'est-ce que vous voulez que fassent les animaux sans les plantes ? C'est pour ça qu'un truc marrant, c'est l'histoire de Noé, parce qu'il a embarqué dans son arche des animaux. Il a oublié les plantes. Ouais, c'est une histoire qui ne tient pas la route.
C'est vrai qu'il a l'art de la formule, ce Francis Allais. Ça a dû être merveilleux de découvrir avec lui la forêt tropicale. Mais au-delà du privilège que ça doit être d'effectivement découvrir ce lieu avec ce spécialiste, comment ensuite vous avez mûri le film ? Comment transmettre ça ?
C'était tout le défi. Je crois que ce défi, il se nourrissait de l'énergie et de l'érudition de Francis. Vous avez vu, c'est quelqu'un de singulier. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui philosophiquement est en avance sur son temps, justement parce qu'il s'est intéressé à d'autres mondes. Et moi, l'idée, c'était de me mettre au service de cette parole, sans la trahir, mais en faisant de sorte qu'elle puisse devenir un film, tout simplement, avec le langage propre du cinéma. Et ça a été un travail. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. Je suis allé nombreuses fois l'écouter, travailler avec des amis scientifiques pour essayer de me dire, ah oui, là, j'ai un truc qui peut être mis en image. Et moi, j'avais un handicap considérable, c'est-à-dire que pour rendre mobile les arbres, j'avais pas plusieurs siècles devant moi, malheureusement, et il fallait que je trouve des trucs qui soient des trucs de cinéma. Et c'est là que j'ai eu l'idée de me servir de l'outil de base que tout botaniste possède, c'est l'art du dessin. Parce que le dessin permet de résumer quelque chose qui est immense, il permet éventuellement de lui donner le mouvement, et c'est comme ça que je suis allé vers le mouvement animé pour décrire et pour montrer aux spectateurs ce qui était finalement l'art du mouvement et transcender le temps de l'homme pour aller chercher le temps du végétal.
C'est-à-dire qu'on a des dessins en surimpression sur le film, mais ça reste un film avec de vraies images filmées dans des forêts tropicales, lesquelles d'ailleurs ?
Donc on est allé dans les deux grands bassins de forêts primaires qui subsistent encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est allé sur le piémont amazonien des Andes, dans le parc national du Manu au Pérou, et on est allé au Gabon, qui est encore un grand pays forestier, qui a su préserver une partie de ses forêts primaires. Et donc on est allé chercher deux forêts très différentes pour aller un peu vite. La forêt amazonienne, c'est l'église baroque, une richesse incroyable, mais pas très grande. Et la forêt gabonaise, c'est la cathédrale. C'est les arbres immenses, c'est les éléphants, c'est les gorilles qui sont là au milieu. Et c'était vraiment intéressant de vivre ces deux forêts presque en continuité. Comme ça, c'est une expérience humaine extraordinaire.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez montrer dans ce film ? C'est vrai qu'on se rend compte à quel point, même si ce n'est pas le même temps que le nôtre, il se passe énormément de choses dans une forêt, des compétitions, des agressions entre plantes et animaux. Tout ça, vous aviez envie de le mettre en image et de le faire vivre ?
Ben, j'avais envie d'emmener le spectateur là où Francis m'avait amené, c'est-à-dire à rentrer dans la peau des plantes et à comprendre qu'effectivement, là où on s'est autoproclamé chef d'orchestre du vivant, on s'aperçoit que non, c'est pas nous les chefs d'orchestre, c'est pas les animaux, c'est les plantes. C'est elles qui donnent le tempo de la vie de la forêt, c'est elles qui nourrissent la forêt, c'est elles qui vont être capables de mettre en place des stratégies absolument incroyables pour attirer les animaux, pas n'importe quel animal, une espèce bien précisément, au moment très précis où la plante en a besoin. Et pourquoi elle en a besoin ? Elle en a besoin en particulier pour disséminer ses graines, pour aller se reproduire vers une autre plante à quelques kilomètres de là. Et elle va en avoir besoin une deuxième fois pour balader ses fruits, tout simplement pour conquérir l'espace. La plante conquiert l'espace par procuration, et c'est assez génial de voir que cet être sans cerveau est capable de déployer des stratégies qui nous épatent aujourd'hui. Et je crois que là, il y a un fond de connaissances, d'interrogations qui va nous emmener très très loin et qui nous rend instantanément modestes.
Ouais.
Parce qu'elle relativise ce qu'on considère de manière extrêmement immodeste, c'est-à-dire la prédominance du cerveau. Ben, les plantes n'ont pas de cerveau et pourtant qu'est-ce qu'elles sont malines.
Oui, c'est ça. C'est une des formules de Francis Allais. Vivre mobile est à la portée de tous, mais pour vivre immobile, il faut beaucoup d'imagination. Et effectivement, il en faut. Alors, on apprend des choses pas croyables. Par exemple, le Moabi, qui est un arbre gigantesque, le plus haut, plus de 70 mètres, en faisant tomber son fruit de toute la hauteur de l'arbre, en percutant le sol, ça fait des vibrations dans le sol qui font venir les éléphants. C'est là, quand vous dites qu'il y a de la manipulation, l'arbre est immobile, mais il arrive à faire venir les éléphants en faisant tomber ses fruits sur le sol.
Oui, et puis c'est les parfums que l'arbre est capable de produire. Comment l'arbre sait-il que l'animal est-il à ce point accro au sucre ? L'arbre n'a pas intérêt à fabriquer des sucres, du fructose, il n'a pas intérêt à y mettre des parfums, si ce n'est pour attirer l'animal. Mmh. Et quand je vois l'addiction qu'on peut avoir à la vanille, aux roses, aux pommes de terre, à ce qu'on voudra, les plantes savent appuyer là où ça titille, ouais, si j'ose dire.
Et, vous voulez dire qu'il n'y a pas que les éléphants qui sont manipulés, aussi.
Bien sûr,
nous
on aussi, est parfaitement on aime manipulés. La vanille. À un tel point qu'aujourd'hui, dans certains magasins, on diffuse des parfums de figuier, puisque c'est une odeur qui nous est très agréable, qui a beaucoup de prolongements symboliques et intuitifs. Et on est parfaitement dans la séduction. Et la plante sait séduire l'animal, et nous sommes le premier animal venu pour la plante.
Mmh. Alors par exemple, la vanille, le fait qu'on aime la gousse de vanille, on va en prendre soin, et donc du coup, la plante, c'est profiter un petit peu autant de nous que nous profitons d'elle.
Quel succès prodigieux, la vanille qui est une liane, qui est une orchidée, qui ne pousse qu'au fond des forêts, qui aurait pu rester complètement marginale, a su domestiquer l'homme à un tel point qu'aujourd'hui on trouve de la vanille sur toutes les îles qu'elle n'aurait jamais pu atteindre. L'homme avec un pinceau va être capable de la polliniser avec un soin extrême, il va la débarrasser de ses insectes, si elle est malade il va l'aider à survivre. qui c'est qui est gagnant là-dedans? Mm-hmm. C'est la plante, ouais, qui continue à conquérir des territoires, à se développer.
Dans les histoires un peu étonnantes et un peu folles aussi, on a ces plantes, je crois que c'est un acacia qui communique en émettant des petites molécules, des petits parfums volatiles. Et puis, quand ces feuilles sont broutées par une gazelle, eh ben, l'acacia, un peu plus loin, est informé de l'agression et donc se met à produire des molécules toxiques pour ne pas être agressé à son tour par la gazelle.
Oui, ça va très très loin. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui sont incapables d'empoisonner leurs prédateurs. Cette question de la communication chimique chez les arbres, c'est quelque chose qui est absolument prodigieux. Là, on n'en est qu'aux prémices. Hein. Étonnant aussi de voir à quel point ça se passe vite. C'est-à-dire que c'est un changement qui est quasiment instantané. Et la plante va être capable, par ailleurs, d'appeler le prédateur d'un de ses prédateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des conséquences directes, c'est des chaînons de communication qui sont très complexes. Et là, je pense que, voilà, Francis Allais, on avait une conversation un jour sur la fin de vie, sur la mort, et lui, à ce moment-là, disait, mais la mort a quelque chose de très injuste, c'est qu'elle va me priver de la connaissance à venir. Et j'aime bien cette idée de la curiosité scientifique, parce qu'on sait qu'on va trouver des trucs là, et que malheureusement, on ne sera pas au courant. Quoi. Quelle frustration. Quoi.
Et pour les conditions de tournage, est-ce que c'était tout aussi compliqué d'aller tourner dans ces forêts tropicales primaires, que ce soit au Gabon ou en Équateur, ou est-ce que ça a été un petit peu plus facile que pour l'Antarctique, qu'on évoquait tout à l'heure?
Non, c'est pas plus simple, c'est d'autres problèmes, c'est des problèmes d'éloignement aussi, c'est des problèmes de... Voilà, on a été jusqu'à 80 personnes sur le tournage.
80 personnes c'est, au beau milieu de la forêt.
Voilà, au milieu de la forêt, au milieu tropicale. De nulle part, hein, au, milieu ouais. de, au milieu de nulle part, donc acheminer de les vivres, acheminer du matériel, faire de sorte que tout le monde rentre vivant, tout en travaillant très haut dans les arbres. Ça a été un défi logistique incroyable que de filmer dans la forêt, mais je crois que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être passeur. Quand on a la chance, comme moi, d'aller dans les plus beaux endroits du monde, l'idée de conserver la planète, une espèce d'évidence, parce que vous recevez des choses, des paysages qui sont d'une générosité incroyable, et vous avez envie de partager ça, quoi. Et pour partager, il faut aller vers les choses vraies. Et il n'y a pas de mystère, ben, il faut monter des expéditions pour aller là où ça se passe, pour de vrai.
Et dans un instant, nous allons nous intéresser au projet de film qui vous occupe actuellement, Luc Jacquet, Retour à la case polaire. Et on revient à l'Antarctique avec vous, Luc Jacquet, à croire qu'on y revient toujours, passionné que vous êtes. C'est vrai que je vous ai présenté comme le réalisateur de La Marche de l'Empereur, de Il était une forêt. Je cite toujours ces deux-là parce que c'est les films dont on parle aujourd'hui, mais il y en a d'autres, hein, comme Le Renard et l'Enfant. Et puis, il y a ce avenir. Comment s'intitulera le prochain ?
La glace et le ciel.
Qu'est-ce que vous nous raconterez cette fois-ci ?
Ben encore magnifique rencontre avec un grand bonhomme, un grand scientifique qui s'appelle Claude Lorius. Claude Lorius a été le premier à découvrir dans les glaces de l'Antarctique qu'il était en train de se passer quelque chose qu'on n'appelait pas encore à l'époque le bouleversement climatique. Et j'ai eu envie de donner la parole à ce grand témoin qui a, par son génie, par sa capacité à être solidaire, par sa capacité à repousser les limites de l'Antarctique, des expéditions, etc., était capable de nous produire une connaissance qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le même regard sur le monde qu'on l'avait il y a 50 ans. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est la notion d'épopée. Claude a été capable de mettre ensemble, en pleine guerre froide, des Russes, des Américains, des Français, pour produire une science qui dépassait complètement les clivages politiques parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient en train de découvrir quelque chose d'important. C'est un type qui a toujours pris les bonnes décisions, c'est un génie de la science quelque part, qui est quelqu'un de malheureusement un peu méconnu, qui est complètement en retrait par rapport à ce qu'il a produit comme résultat scientifique. Et j'ai eu envie de raconter sa vie, tout simplement.
Alors je vous propose d'écouter la voix de Claude Lorius qui, en 1995, racontait à Michel Chouchan sur France Culture l'état d'esprit dans lequel lui et ses coéquipiers étaient en arrivant pour la première fois à la base Charcot en Antarctique.
Moi, je ne crois pas que quand on est parti à Charcot, on avait ces images en tête. Je crois pas qu'on avait beaucoup pensé qu'on serait devant un désert blanc quand vous sortez de la maison qui était donc enneigée, mais il y avait des milliers de kilomètres devant vous et c'était tout blanc et c'était tout vide. Mais je crois peut-être une des choses qui nous marque tous les polaires, c'est la nuit.
Ça vous fait un point commun avec Claude Lorius, cet attachement. Claude Lorius a passé, il est parti, il a fait plus de 20 expéditions, il y a passé au total 6 ans de sa vie, si on met bout à bout tout le temps passé là-bas. C'est un vrai amoureux de l'Antarctique, comme vous.
Oui, c'est un parcours assez similaire. Enfin, je ne comparerai pas au talent scientifique de Laurius, mais comme lui, moi j'ai trouvé un panneau, je suis parti un peu, une annonce sur un panneau de la fac, comme lui, je suis parti un peu par hasard, et comme lui, j'ai trouvé ma vocation dans les glaces, ici s'arrête la comparaison. Si ce n'est qu'on a effectivement plein de choses à partager, ce sentiment d'avoir vécu sur le balcon du monde, d'avoir un point de vue un peu privilégié pour observer la planète. C'est vrai que ça vous marque à jamais ces expériences, parce qu'on est tellement hors du monde, dans des contextes qui sont tellement différents, que je crois qu'il y a une fraternité des polaires, ça c'est une évidence.
Mmh. Où vous avez été tourné pour ce film, La glace et le ciel ?
On a été tourné dans les décors où Claude avait prédit il y a 30 ans, dans ses premiers articles dans Nature, il avait dit là il va se passer quelque chose. Il nous avait dit là les glaciers sont en train de fondre. Là, l'Antarctique est en train de perdre de la glace comme jamais. Là, le niveau des eaux est en train de monter. Il nous avait dit aussi, vous allez voir, ce bouleversement climatique va entraîner des bouleversements majeurs, en particulier sur les tempêtes, sur le régime des pluies, sur les incendies de forêt. Et je crois que la grande qualité de Claude, c'est d'avoir, d'une part, produit de la connaissance, mais d'autre part, eu une foi dans l'homme inébranlable. Et même aujourd'hui, Claude dit, l'humanité va trouver en elle-même le ressort de prendre à son compte la connaissance qu'on a produite pour trouver les solutions à son futur, à son devenir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne nie qu'il est en train de se passer quelque chose. Tout le problème, c'est de trouver les solutions. Et je crois que le système politique arrive à ses limites, c'est-à-dire qu'il faut prendre quelque chose qui concerne l'espèce entière sur la planète entière. On ne parle plus d'un pays qui parle à un autre pays, on ne parle pas d'un continent qui parle à un autre continent, mais je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait généraliser à la conservation de la nature. On a parlé des forêts tout à l'heure. Comment on fait pour gérer le bien commun qui concerne l'humanité entière. Et je crois que ça, c'est un des grands défis politiques qui nous attendent.
Et c'est un peu l'enjeu de ce prochain film que vous nous promettez, La glace et le ciel. Il sortira quand ?
Octobre 2015.
Voilà, il sera entouré de beaucoup d'actions pédagogiques, de sensibilisation. Hein. C'est un tout avec la fondation dont vous nous parliez, l'association Wild Touch.
Oui, c'est effectivement tout le travail qu'on fait avec les équipes de Wild Touch. C'est-à-dire qu'on sait qu'un film peut être capable d'alerter, porter de l'émotion, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler en profondeur. Et c'est pour ça que on sait faire des images, on sait faire des films, on sait produire des petits médias qui peuvent être extrêmement attractifs pour les enfants. Donc on est en train de faire un travail de fond avec les professeurs, avec les écoles, pour leur donner les moyens de passer ce message, faire de sorte que les enfants comprennent, puisque malheureusement, ça va être à eux de gérer ces questions-là demain matin. Et j'aimerais qu'ils puissent le faire en ayant envie et non pas désespérer devant un message totalement mortifère.
Merci Luc Jacquet d'être passé par notre bivouac, et en attendant La glace et le ciel, eh bien, on peut voir ou revoir La marche de l'empereur où il était une forêt.
Merci.
Merci pour ce merveilleux spectacle.
La routine.